première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Mais donc nous sommes à un étage où sont entreposées des archives d'architectes. Des architectes qui généralement ont fait leurs études à l'Institut d'architecture Saint-Luc de Bruxelles et qui maintenant étaient intégrés à la faculté d'architecture Loki, donc de UC Louvain.
Brigitte de Croof.
Alors l'architecte Jean Cos, qui est quand même fort connu dans le Brabant wallon et aussi pour des édifices d'architecture sacrée en France. Donc ça, c'était des archives qui sont très intéressantes. Vous allez voir, c'est assez petit.
Hommage à Jean Cos.
Ceci consiste à ce que nous avons déjà rapatrié de son bureau. Donc ce sont tous des calques qui sont des originaux, qui sont classés dans des boîtes sécurisées au point de vue humidité, au point de vue moisissure, etc. Des grands calques comme ça, il y en a 3700.
Hommage à Jean Cos, 1931-2016.
Des calques en général de publication. Donc ce sont des plans qu'on a redessinés pour être publié et éliminer un petit peu toutes les données qui sont plus techniques et pour être publié dans des revues à petite échelle. Alors on a aussi toute une série de boîtes avec des photos imprimées, des revues, on a des manuscrits qui étaient des extraits de ces préparations pédagogiques. Ces préparations pédagogiques qu'il faisait avec beaucoup de cœur et qui étaient toujours en synergie avec ce qu'il faisait comme métier d'architecte. Donc il était parallèlement enseignant et architecte.
Hommage à Jean Cos, 1931-2016. Avec Brigitte de Croof, Jean-Paul Verlaine et Marie-Jeanne Cos.
Et à une fois j'entends... Je dis qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
Une maladie honteuse. Donc.
Vous allez où ?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Ça, c'est sa mallette que tout le monde connaît.
La voix de Jean Cos a été enregistrée au printemps 2016.
Nous sommes dans ma première maison. En fait, ces plans ont pris un an. Mais, avant ça, j'ai passé 2 ans de service militaire et ça m'a donné l'occasion de réfléchir à ce que, vraiment, je voulais faire comme architecture. Donc j'avais des idées plein la tête quand j'ai commencé les plans de cette maison-ci. Quand j'ai eu des possibilités d'acheter le terrain, j'ai commencé les plans et tout était dans ma tête, pas les formes, mais l'esprit était là.
Il avait toujours cette mallette qu'il aille soit donner cours, soit pour faire son travail d'architecte. Et donc, il se trouvait en tout cas toujours des doubles mètres, de quoi écrire, souvent des marqueurs. Il utilisait beaucoup de marqueurs, une boussole pour avoir l'orientation des terrains. Du papier quadrillé, parce que ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant pour pouvoir prendre note plus ou moins à l'échelle de ce qu'on prend comme relevé de détails, de terrain, etc. Bon, donc il y avait plus que ce que vous voyez pour l'instant, mais c'était de cet ordre-ci.
J'avais une idée, je la défendais à travers tout.
De mon mari, Jean Cos, architecte. C'est sa première maison, en fait.
Et ceci, c'est du lieu à l'architecture, c'était quelque chose qui lui tenait fort à cœur, c'est de partir des ressources du lieu, de bien examiner où on se trouvait, que ce soit en milieu construit comme le bâtiment Saint-Luc qui se trouve ici à Saint-Gilles. Donc là, on est en milieu tout à fait bâti puisqu'on est dans des rues fin 19e siècle. Ou bien qu'on soit dans la nature comme dans des monastères qui sont tout à fait isolés dans la montagne comme dans les Cévennes.
Jean Cos était fort attaché à cette problématique du regard. Hein. D'ailleurs, son architecture, c'est une architecture qui s'adapte tout à fait au lieu. Et donc le départ de sa démarche, c'était vraiment s'imprégner du lieu, voir les gens vivre, voir le paysage, les lignes de force du paysage. Apprendre à voir, c'était vraiment une leçon qu'il nous donnait tous les jours. Et Brigitte et moi, nous étions collaborateurs de Jean Cosse. Et tous les jours, ils nous disaient, regardez un peu autour de vous comment ça se passe, comment les gens vivent, etc. Donc, c'est pour ça que son architecture est très proche de l'homme, puisque c'est vraiment le vécu de l'homme et le vécu de ses activités les plus quotidiennes, les plus banales, entre guillemets, mais elles ne sont pas banales du tout, hein, mais qui font que l'architecture prend forme et que chaque lieu est adapté à ses activités propres. Jean-Paul Verleyen, je suis architecte, collaborateur de Jean Cosse avec Brigitte pendant 4 années, et puis j'étais directeur de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc à Bruxelles, et puis vice-doyen de la faculté d'architecture de l'UCL.
Comme nous préparons l'exposition...
Hommage à Jean Cosse par Thierry Genicot. Production Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Dans cette exposition, il y a une partie qui s'attache à l'homme, donc Jean Cosse, à son enseignement. Alors on a aussi toute une série de documents qui ont rapport avec son architecture. Et on les a divisés en 3 catégories. Les lieux de transmission, donc les écoles, les musées, etc., qui sont pour communiquer. Les lieux sacrés, les églises, les chapelles, prieurés, monastères, les lieux domestiques.
L'exposition Jean Cosse, le savoir de la main, sera visible à la faculté d'architecture, rue Waffelaars 4751 à 1060 Bruxelles, du 17 octobre au 10 novembre, du mercredi au samedi, de 13 à 18 heures.
C'est un gros travail, lui, il a 50 ans de carrière.
Parce qu'il faut savoir que Jean Cosse a construit énormément de bâtiments en Belgique, surtout évidemment en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi à l'étranger, en France. 160 réalisations en Belgique et en France. 96 sont dans le Brabant wallon.
Les plans ont été faits en 1958 et on l'a occupé en 1959 déjà.
Mais disons qu'il s'est fort fait remarquer par son architecture cultuelle, donc les églises, les monastères.
Donc il y a presque 60 ans.
Il aimait bien d'avoir des matériaux qui faisaient refléter la lumière, donc les briques à l'intérieur ou des blocs de terre cuite qui accrochent la lumière, les sols aussi. C'était souvent des carrelages, il y avait au départ les dalles, ce qu'on appelait les dalles d'usine, qui étaient des dalles qui avaient une très belle couleur, mais très nuancées d'une dalle à l'autre. Les ardoises, tous ces matériaux, quand c'est du béton qui a un coffrage qui est réalisé en voliche. Donc il y a à chaque fois les déformations, les nœuds des planches, les planches qui ne sont pas tout à fait ajustées, avec un peu de béton qui donne la structure. C'est vraiment quelque chose qui faisait partie de l'architecture.
Marie-Jeanne Cosse.
On a d'abord fait la partie pour la vie de famille. Et mon mari avait une table à dessin là dans le fond.
Ceci, c'est par exemple au départ d'un mât qui se trouve dans les Cévennes. Nous, on a complété ceci parce que des religieuses sont venues occuper le mât, n'avaient pas de chapelle, elles souhaitaient pouvoir recevoir des hôtes, donc une quinzaine d'hôtes pour avoir aussi quand même, malgré tout, du mouvement et un rayonnement par rapport à leur entourage. C'est chaque fois une chose différente, comme dit Jean-Paul, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit plus intéressante que l'autre. Évidemment, il y a des paysages qui nous touchent peut-être plus que d'autres. Voilà.
Il travaillait à ce moment-là pour une société, comme il avait beaucoup de clients, et puis il a été nommé à Saint-Luc professeur. On a refait un bureau là pour recevoir les clients, et un bureau là.
Le travail se faisait dans ce qu'on appelait le petit bureau, et la réception des personnes dans le grand bureau.
Il se baladait dans le Condreau à vélo avec ses toiles et qu'il peignait les paysages. Et d'ailleurs, quand on voit certains dessins d'implantation de ces bâtiments dans les sites contrusiens ou de Namurois, peu importe, on voit très bien qu'il est fort attaché à ces mouvements de sol, au vent dans les arbres, etc., aux lignes de crête. Et donc, son architecture participe de cela.
Le petit bureau était très agréable parce qu'il y a une belle lumière naturelle. Il y avait une petite planche à dessin face à un éclairage zénithal, une autre petite planche à dessin avec l'éclairage qui venait de côté. Et en dessous, une grande table à dessin pour les documents qui étaient beaucoup plus grands parce qu'il n'y avait pas que des habitations, mais aussi des lieux publics avec des nécessités de calque beaucoup plus importants.
Avec parfois des mensonges. Il fallait bien se sortir de...
Des impasses.
Ah ben oui. Et voilà. L'église de Louvain-la-Neuve, c'est quand même pour moi... une chose très importante.
Voilà, ça c'est sa mallette. Alors il faut dire que la façon de travailler qu'on avait dans le bureau était très artisanale par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est qu'on faisait tout à la main, on a fait toujours tout à la main. Tout a été dessiné aux instruments bien sûr, mais sans ordinateur. Donc ce sont tous des beaux documents originaux qui se trouvent ici en fait.
Tous les parloirs, et il restait la table. Et alors il ne comprenait pas que la table basse, c'était très accessoire par rapport à une vraie table où on s'appuie et on peut parler.
Mais oui. D'ailleurs, le meilleur endroit où on parle dans une maison, c'est toujours la cuisine autour de la table.
Eh bien voilà. Non, il y a toutes ces choses anciennes qui ouais, finalement avaient beaucoup de sens.
Ouais.
On a oublié parce que c'était pas moderne. Et puis on y revient.
Ouais. C'est vrai. Spontanément, hein, même.
Spontanément, oui, tout à fait.
Oui.
Brigitte de Groove. Moi, j'ai travaillé pendant 34 ans comme collaboratrice de cet architecte Jean Cosse.
Et vous êtes architecte vous-même?
Oui, oui, oui. C'est Fard aussi. C'est avec tous des dessins, des esquisses, des détails. Je ne sais pas si vous voulez que j'en prenne une et que je les ouvre. Par là, on a encore des séries de photos, des diplômes, des revues dans lesquelles il y a des publications de certaines de ses œuvres. Alors, il y a un livre que lui-même avait écrit avec le père Frédéric de Beust, qui est un moine de Clairlande, qui vient de décéder, enfin, il y a un an. Le livre s'appelle « Des maisons pour vivre, Jean Cosse », où on retrouve, au fond, plusieurs maisons qu'il a faites justement en Bramant-Wallon, à commencer par sa maison personnelle, qu'il décrit et qu'il explique en long et en large pour expliquer quelle était sa démarche par rapport au quartier, par rapport au lieu et au terrain. Donc c'est une maison qui a été construite en trois étapes.
Il y a une autre chose que je trouvais fort caractéristique dans son œuvre, c'est la notion de parcours.
Tout est apparent, hein. Les briques sont apparentes
oui,
à l'intérieur.
Tous les matériaux naturels.
Tous les matériaux naturels, oui. Oui. Dans les pièces pour lesquelles il avait quand même beaucoup, beaucoup d'attention, et ce n'était pas le cas, je pense, à cette époque, c'est la zone d'accueil. C'est le lieu où on rentre dans la maison. Était toujours assez vaste. Et il y avait toujours des petites anecdotes, un banc où on peut s'asseoir. C'est pas juste le vestiaire qu'on trouve sur le côté, non, on peut mettre une sculpture, on a un beau fauteuil, toujours une belle lumière et souvent une sorte de regard sur le jardin ou sur la nature, qu'il soit direct ou qu'il soit du côté.
Et toute la maison, donc.
Et on a chaque fois des perspectives vers des paysages qui changent. Disons, ici, il y a le tronc et il y a le petit jardin avec le jardin des pierres. Par moments, au printemps, c'est tout fleuri. Quand il y a de la neige, on voit juste les reliefs qui sont donnés par ce qui est déposé dans ce jardin. Donc, ça participe à la vie. On sait à quelle saison on est, à quelle heure de la journée on est aussi.
Moi, tous les jours à 4 heures, je venais leur servir ou du café ou de thé. Donc, c'était une atmosphère charmante.
Oui, c'était
je crois que vous avez de bons souvenirs.
Tout à fait. Tout à fait.
Et votre mari se tenait où?
Ah, mais quand on prenait
il
le café,
allait d'un endroit à
mais on, lui on s'asseyait sur la marche là, et nous on s'asseyait sur les marches par oui. terre, et on mettait le plateau par terre. Oui.
Que ce soit pour arriver dans une maison, par exemple, mais aussi le parcours interne et intérieur de la maison.
Ce sont des cornières pour les poignées. Ici, bah, y a juste des lattes et on met les rouleaux de calque et de tirage entre le vitrage. Ça se passait assez bien, naturellement. Et dans chaque travée, on avait un sujet. Et puis quand le bâtiment était terminé, il était rangé encore ailleurs parce que les archives ont vraiment augmenté peut-être plus qu'ils ne le pensaient. Donc il y a des armoires dans le garage qui ont aussi été faites pour ça.
Des échappées, parfois des chicanes qui permettent de découvrir petit à petit les espaces, de les deviner derrière des murs bas, de deviner la lumière qui vient du haut, permettent des vues autres que simplement une simple fenêtre qui donne sur un paysage banal. Non, il trouvait toujours dans ses habitations, notamment, la vue qu'il fallait pour qualifier le séjour des personnes, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans leur chambre, que ce soit dans le séjour proprement dit. Avec des demi-niveaux, avec des mezzanines, etc., des vues plongeantes, contre-plongeantes.
La zone d'accueil est vraiment accueillante. C'était vraiment une de ses priorités dans toutes les maisons qu'il a réalisées. Oui. On peut s'asseoir, on peut déposer. On a toujours une vitre qui nous donne une perspective vers quelque chose, suivant les clients, mais donc ici c'est chez lui, mais des œuvres d'art qui sont...
On a beaucoup d'œuvres d'art des années 60 aussi, l'autre de là-haut. Et alors, Félix de Bouc, c'était le grand ami de mon mari. Voilà. Et Jean allait lui dire bonjour, et il revenait toujours avec un petit tableau. Oui.
Les meubles étaient dessinés avec des détails à 100%, toujours. Et souvent, avec, comme vous le voyez de nouveau ici, les matériaux bruts, donc du bois qui est simplement poli et qui est sur une structure en métal, quoi, pour la table. Ce sont des profilés de chantier, si on veut dire. Oui. Le dessin des escaliers était aussi quelque chose qui lui tenait à cœur. Il aimait bien dessiner les escaliers.
Et un jour, de là-haut, il y a aussi Berthe Dubail qui est très bien. Là, c'est Gilles Soul, c'est un graveur.
Ah ben, cet escalier, donc, il ne comporte que 5 marches, donc il passe du lieu de séjour au lieu des chambres. Le lieu des chambres qui se superpose aux espaces de cave, de garage. Et ces 5 marches ont des marches en bois massif, en chêne massif, et qui reposent simplement sur un limon central. À l'origine, il n'y avait que la main courante contre le mur et pas la deuxième. Mais donc, ils étaient larges. Il y avait quand même une très grande attention aussi sur le fait que les marches soient profondes et pas trop hautes. Donc, il y a quand même un grand confort. C'est quand les nécessités se font pressantes que les marches sont un peu plus hautes. Comme dans le petit bureau, on n'a pas beaucoup de place. Et donc, les marches sont plutôt assez hautes par rapport à la profondeur. Alors ce sont des marches à claire-voie, donc on voit d'un espace à l'autre. Elles sont aussi entre un mur et le massif de cheminée de feu ouvert. Et donc on a aussi cette perspective, une sorte d'intimité qui se fait un petit peu, mais qui laisse la transparence entre les deux espaces.
Ah, ça j'ai apprécié, toujours.
Tout cela permettait de qualifier fondamentalement le lieu de vie des habitants, des occupants.
Voilà, le grand bureau qui a encore pas mal d'aménagements qui datent de cette intervention-ci, puisque c'est l'annexe numéro 2, on va dire l'agrandissement numéro 2, avec la toute grande table. De nouveau, on peut déposer beaucoup de choses. On peut aussi recevoir des gens éventuellement en plus grand nombre.
La leçon qu'il nous a appris, c'est que l'architecte, bien sûr, il sert à quelque chose, j'espère bien quand même, mais il sert surtout à qualifier le cadre de vie des gens. C'est la plus-value d'une certaine manière. Si on ne parvient pas à qualifier, un constructeur peut le faire aussi bien, hein. Un entrepreneur peut le faire bien. Bien construit, une maison solide qui ne va pas s'envoler au moindre souffle de vent. Mais malgré tout, l'architecture, c'est ce plus qui est indicible. Il parlait de valeur indicible, hein. On ne sait pas la quantifier, on ne sait pas la monnayer, mais c'est justement la qualité de l'architecte qui va faire que la personne va petit à petit, au fur et à mesure de son occupation dans le lieu, va découvrir des choses qu'il n'avait pas imaginées, que l'architecte, et Jean Cossa en particulier, avait prévues ou imaginées, ou données en cadeau d'une certaine manière, sans prévenir quelque part.
Hommage à Jean Cossa, 1931-2016.
Chez Roger Bastin, on peut trouver le même. D'ailleurs, ce sont des architectes qui sont un peu de la même filière, dans la même vague. Si ce n'est que, si on peut comparer, mais c'est tout à fait personnel, entre Jacques Dupuis et Jean Cosse, même s'il y a une parenté dans la qualité des espaces, dans la recherche de la lumière, des vues, etc., de la fluidité des espaces, chez Jean Cosse, je crois qu'il y a un souci. Je ne dis pas que chez Dupuis, il ne l'avait pas, loin de là, mais un souci de la structure, donc de la tectonique.
Il était aussi fort intéressé par tout ce qui était architecture naturelle. Il y a eu beaucoup de travaux avec les étudiants sur des tournesols, des légumes, les artichauts, des choses comme ça. Sur les coquillages, il y a des choses par lesquelles il était touché, des formes qu'on n'analyse pas, mais qui sont belles en soi, quoi.
On construit avec des matériaux. Ces matériaux ne doivent pas être utilisés n'importe comment, d'une certaine manière. Ils ont chacun leur valeur, chacun leur mise en œuvre. Et la structure même, donc quand je parle de structure, c'est la structure constructive même, a beaucoup d'importance et elle participe à la lecture de l'espace. Je crois que c'est assez manifeste chez Jean Cos, que ce soit dans les habitations ou dans les œuvres publiques comme les églises, les monastères, les écoles. Il a fait pas mal d'écoles.
Il était aussi fort attaché au parcours du soleil qui allait éclairer différemment, parfois la même pièce, mais avec une prise de lumière en toiture ou bien une vue cadrée, comme on en a parlé tout à l'heure. Et il y avait aussi parfois des baies entre différentes pièces. Donc, par exemple, on empruntait un escalier et dans cet escalier, il y avait une baie ronde qui permettait de voir sur le bureau ou sur une partie du séjour avec le feu ouvert. Donc, ce parcours n'était pas que physiquement perçu. Ce fascicule qui est consacré à son habitation, il y avait très régulièrement l'idée du soleil en été et soleil en hiver. Donc, le soleil dont on doit se protéger, le soleil qui réchauffe quand on en a besoin et qui n'a plus de feuilles.
Bon, on peut évidemment trouver la recherche du sacré évident dans les bâtiments cultuels, mais je crois qu'il cherchait ce sacré aussi dans l'habitation quotidienne, dans la simple maison.
Alors les décrochements entre les toitures, parce qu'ici vous saisissez cette pente-ci qui va vers la rue et celle-là qui descend vers le jardin, dans ce décrochement il y a des fenêtres qui éclairent en fait les chambres.
C'est la première maison solaire, ou une des premières, sans le savoir.
En tout cas, bioclimatique, quoi. On tire parti de tout ce qui arrive de la nature. Oui.
Le cœur est souvent un foyer, au sens propre du terme et concret du terme, un feu. Je crois que ce n'est pas rien que l'espace même qui est sacré, c'est tout ce qui tourne autour et tout ce qu'il génère. Donc les vues qu'il offre, le type d'espace qu'il offre.
Je vais vous dire où, comment j'ai eu l'idée de l'architecture que j'ai faite.
L'enregistrement que vous m'avez donné date de quelle époque ?
2 ans et demi, oui, c'était vers le mois de mai, avant qu'il ne décède. Et c'était autour de cette table-ci, justement, qu'on était rassemblés. Donc il y avait 2 personnes qui s'occupent de la bibliothèque et de l'archivage à Bruxelles, à la faculté Loki. Et puis moi-même et Jean, il vous est apparu aussi de temps en temps pour nous offrir une tasse de café. Mais voilà, ça s'est passé il y a un peu plus de 2 ans.
Je vais vous dire où, comment j'ai eu l'idée de l'architecture que j'ai faite. J'ai commencé par travailler pour une société. Passer un examen, on dit, ah, il est bon, on va le prendre. C'était dans la société terrienne, hein, qui construisait assez bien, etc. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais, comme ils avaient vu que je dessinais facilement, examen, etc., ils m'avaient dit, vous allez renouveler notre façon de voir les choses. Et ils m'avaient donné 2 dessinateurs. Qui s'occupait de recevoir les gens qui venaient du Limbourg, etc., de donner la documentation, et en plus de me donner un petit coup de main pour le dessin. Et alors, je sortais de mon service militaire, j'avais beaucoup réfléchi, mais quand on réfléchit tout seul, c'est vrai qu'il n'y a pas de contre. Et alors un beau jour, lequel est-ce des deux, je ne sais plus lequel, vient me dire, ah, on a reçu des gens de Campine pour voir des plans types de la propriété terrienne. L'entrée, etc., le petit bureau, petit. Et là, madame, nous, on veut une belle maison, mais pas une comme celle que vous avez affichée. C'était les miennes. C'était mes avant-projets pour... Oui, voilà. Et alors je me suis dit, t'as trouvé ton chemin. Je voulais une architecture contemporaine, mais qui ne soit pas une architecture moderne de n'importe où et de n'importe quand.
Il évoque quelque chose qui date d'il y a très longtemps, il y a certainement 40 ans. C'était dans ce cadre-là qu'il avait reçu des gens, et si j'ai bien compris, c'était affiché sur le mur, il y avait des façades affichées, et ces personnes disaient qu'ils voulaient une maison, mais pas cette maison, comme ça.
C'était des maisons sociales.
Donc là, cette dame-là ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle me révélait. C'est exceptionnel, hein, d'avoir un chemin tout fait avec quelqu'un qui vient de son Limbourg, qui ne parle pas français. Donc c'était traduit. Mais c'était clair, hein, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas ça. Alors j'ai dit, ça y est, ça trouvé. Une architecture qui a une force, qui a une vérité ancestrale, et qui est moderne. Et voilà. Tout ça vient goutte à goutte. Et je m'y suis toujours tenu.
Les maisons sociales particulièrement, donc les plans sont très efficaces puisque les surfaces sont comptées. Mais il y avait un très grand travail sur l'association des maisons les unes par rapport aux autres. Et avec des petits décalages, ils permettaient une intimité dans l'espace extérieur de jardin, par exemple. On a parfois 4 maisons, parfois un petit peu plus. Il tenait compte du relief du terrain et de la forme de la rue, bien sûr, mais il les exploitait dans le sens tout à fait positif, hein, c'est ça. Et alors, il y avait toujours le jeu des pentes de toiture, comme il y a souvent des décrochements dans la toiture. Une des pentes avait rapport avec la maison voisine, de gauche, disons, et la pente plus basse avec la maison de droite, par exemple. Hein. Et ça permettait de faire des jeux de façade aussi, parce qu'il travaillait sur la profondeur de la façade, les vitres en retrait, mais aussi dans l'implantation.
Jean-Paul Forlay.
Dans le travail qu'on a partagé avec lui, il était d'une exigence extrême, hein, dans le sens où il nous amenait à chercher toujours plus loin. Et je me rappelle notamment, c'est une anecdote assez particulière, lorsqu'on a imaginé le clocher, dessiné le clocher de l'église de Saint-François Louvain-la-Neuve, il nous disait avant de partir donner cours à Mons ou à Saint-Luc à Bruxelles, il disait voilà, quand je reviens, je vais voir 100 clochers différents. Et pendant toute la journée, on traçait des clochers, on le cherchait, toujours dans la vague évidemment qu'il voulait travailler, mais. Et puis quand il rentrait, on affichait tout. Il passait en revue, il enlevait tout ce qui ne lui plaisait pas ou ce qui ne convenait pas. Et le lendemain, il nous disait, vous travaillez les 20 clochers qu'on a gardés. Et on retravaillait. Finalement, il en gardait 2, enfin 5, 2, et puis le clocher final. Jamais se contenter de la première esquisse, mais toujours remettre l'ouvrage sur le métier.
Par exemple, l'église, j'ai fait des murs autostables. Les murs de l'église, hein, Brigitte. Donc, ce sont des murs pas très épais, mais pas suffisants pour s'opposer à la pression du vent sur des hauteurs pareilles. Donc j'ai travaillé le mur en contrefort qui se complétait mutuellement et qui formait une structure en verre, depuis le bas jusqu'au dessus, et suivant la hauteur, on diminuait l'amplitude des verres de l'amplitude au sol du plan. Et on est arrivé comme ça au-dessus.
Même quand les plans étaient déjà des plans d'exécution, et que tout d'un coup, il se disait, tiens, on pourrait quand même encore améliorer en faisant tel ou tel apport, on n'hésitait pas. Hein. Donc les calques, on grattait avec une lame de rasoir, qui était la technique ancienne, et on a augmenté, entre autres, le clocher de Louvain-la-Neuve de quelques mètres dans sa hauteur, parce qu'on a commencé à faire un tracé régulateur sur la face, et on s'est dit, tous les points qui sont sur cette façade... doivent s'accrocher à un tracé et ça fait monter la hauteur en fait.
Ce principe constructif, je suis parti des plans de René Grège, des plans de base des parkings.
Ah oui.
Ah oui, c'est.
Ah oui.
Et j'avais beaucoup d'estime pour René Grège et d'amitié. Alors, pas question de changer quoi que ce soit. Alors, je suis parti de ces 8 mètres 20 et je ne sais combien, comme écartement des poteaux. Alors, plutôt que de mettre des poutres, je suis sorti avec les 8 mètres 20.
Donc, c'est à partir du sous-sol, en fait.
Oui, c'est ça, c'est les colonnes des parkings. Oui, c'est parking, en fait.
Ah oui, tout à fait. Donc, il fallait maintenir ça.
Puis, j'ai fait.
Pas s'appuyer autre part.
Ah, ben oui, logique.
Des porte-à-faux pour ramener à 4 mètres. Et de 4 mètres, je suis venu à 2 mètres. Enfin, 2 mètres, quoi. Rien que par le mécanisme constructif. Et ce mécanisme constructif, à ma grande surprise, me donnait une architecture autre que les autres. Il n'y en a pas une qui lui ressemble à Louvain-la-Neuve, ailleurs non plus. De nouveau, je restais dans mon esprit utilitaire, comme les fermes brabançonnes, etc. Et cette architecture d'encorbellement, c'est ce qui est le moins fatigant pour la poutre.
Oui, ça c'est sûr.
C'est le poteau
oui.
qui reprend son poids, et ainsi de suite.
Donc on avait ce projet de faire étager les charpentes en les reposant les unes sur les autres. C'est René Grège qui a fait les calculs des sections et des proportions des tirants, des appuis, des assemblages que l'on souhaitait.
Les maisons que j'ai fait au départ, pendant 10 ans, j'ai fait des maisons. Mais des maisons qui avaient un caractère rural tout en étant des maisons modernes, et tout en étant, en cherchant une adaptation au lieu.
Quand on travaillait avec d'autres personnes, il y avait un grand respect pour les personnes, justement. Et alors aussi un grand respect des personnes qui exécutaient les travaux.
Ah, oui.
Surtout dans les maisons, c'était vraiment des amis, tous les entrepreneurs. En fait, on travaillait un peu artisanalement, et chaque lot était séparé. On avait chaque fois un spécialiste pour la toiture, un spécialiste pour les maçonneries, les fenêtres, le châssis et le vitrage étaient des personnes différentes à cette époque-là. Donc on avait toute une série de personnes qui nous entouraient, qui étaient toujours de bons conseils aussi. On avait quelqu'un pour le carrelage, on avait quelqu'un à l'électricité, le plombier c'était quelqu'un d'autre, le chauffagiste c'était pas le plombier. Enfin, donc
mais
on avait beaucoup
qui
de
travaillaient pour lui. L'aimait beaucoup.
Oui.
Ah oui. Et lui aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Ça allait vraiment dans les deux sens. Oui.
Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les modèles initiaux. On ne cherchait pas à s'adapter à un site, etc. On cherchait à bien bâtir. Bien bâtir avec les matériaux dont on dispose, avec le terrain dont on dispose, etc. Donc, tout était déjà là. L'adaptation au sol, c'était une obligation pour eux, pour les anciens. Ne pas faire cette adaptation, ça coûtait plus cher. Donc, automatiquement, c'était ça, c'était bien construire, bien adapté au lieu et bien adapté à la fonction. Je ne parlais pas de fonction, à l'usage. Voilà, ça c'est le début, je ne dirais pas la fin,
le début de mon enseignement et le début de ma pratique.
Brigitte Decroix.
Parfois, ils doivent inventer même une technique constructive parce qu'à Clairlande, dans la chapelle, ce qu'on appelle l'espace de gloire est donc semi-circulaire et couvert par une voûte, mais en maçonnerie. Ils ont dû essayer de trouver un système pour faire cet encorbellement, mais sur une courbe. Et après, ils sont fiers. Hein, ils sont... Quand ils viennent dans ce lieu-là, ils disent « Ah, mais c'est moi qui ai réalisé ça, en fait. »
Et c'était pareil pour les écoles. C'était pareil pour les églises. Les églises, là, c'est à nouveau un choix important. Une église, c'est une église. Elle a son importance dans le village et dans la ville. Sa grande importance, on reconnaît le lieu où on se trouve par rapport au clocher. Et à l'époque où j'ai commencé les églises, on ne voulait plus de clocher.
Ces architectures blanches, très intégrées, relativement basses, les rapports noir et blanc notamment, quand ils voyageaient avec les étudiants, ou sans doute personnellement, à titre individuel, ils photographiaient tout le temps. Oui. On était dans le car roulait, ils photographiaient tout ce qu'ils voyaient, notamment lors de la recherche du clocher, ils photographiaient tous les clochers qu'ils voyaient. Et donc, il avait une documentation comme ça énorme. Et je pense, enfin, pour avoir vu quelques photos de cette époque-là, que l'architecture nordique l'a très fortement influencé, bien sûr.
Y compris dans le travail du paysage, si je peux dire, des approches de la maison, les roses trémières, enfin, je sais que c'était vraiment une plante qu'on voyait régulièrement au Danemark, entre autres, et pas beaucoup en Belgique, et il y en avait tout autour de sa maison, en fait, hein.
Alors, le clocher de Louvain-la-Neuve, par exemple, pour moi, c'était grosse affaire. Hein.
Oui, c'est une grosse affaire.
Et maintenant que je le revois, je ne sais pas après combien de temps, mais j'ai eu raison. Et le clocher de Louvain-la-Neuve marque la ville.
C'est vrai qu'on le voit. Hein.
Au départ, c'est le professeur Lemaire hein, qui disait ça. Il estimait que la bibliothèque, ça devait être Jacquemin, et l'église, ça devait être Cosse. Voilà, c'était fixé.
Il faut savoir aussi qu'il a été un peu témoin, évidemment, du changement de la liturgie à cause de Vatican II. Et donc, il en a profité pour mettre à jour, d'une certaine manière, toute la façon dont l'Assemblée pouvait participer à l'office. Et donc, sa première église, qui est celle de Waterloo, l'église Saint-Paul à Waterloo, est vraiment très symptomatique. Il l'a d'ailleurs appelée l'église maison, puisqu'elle s'inscrit dans un tissu de lotissement, d'une certaine manière. Mais elle se caractérise par justement l'approche de la scénographie. Et donc, cette réflexion s'est poursuivie tout le long de sa carrière. Hein. Que ce soit l'église de Louvain-la-Neuve, que ce soit les monastères, que ce soit la façon dont il a rétabli les cérémonies dans l'abbaye d'Orval, notamment, avec sa fille Florence. Tout cela participe de la même réflexion.
J'ai profité d'une chose, c'est qu'il voulait des assemblées différentes. Avec des portes coulissantes, comme on faisait à l'époque, quoi. Vous nous ferez des portes coulissantes, et comme ça, on en mettra 100 comme ceci, 300 comme ça. Ça ne m'a pas plu. Je n'ai jamais dit non, mais je leur ai fait une église avec des assemblées de 250, des assemblées de 300, des assemblées de 1200, 1300 personnes. Et chaque fois, ça a bien marché.
Clairlande, c'est un monastère qui a l'air d'être une grande maison, une grande communauté comme ça, pas du tout ostentatoire, mais vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le paysage et qui est très très proche du site d'abord, bien sûr, mais aussi de la façon dont les moines aujourd'hui vivent. Les monastères dont parlait Brigitte, la pierre qui vire, des bâtiments comme ceux-là, sont très très marqués par cette réflexion continuelle sur comment approcher un culte aujourd'hui.
Il parlait souvent d'une assemblée enveloppante, c'est-à-dire qu'on ne soit pas aligné comme si on suivait un cours, mais qu'on participe à la liturgie. Et alors, il y avait aussi toujours une forte notion de l'espace de gloire, donc d'avoir un espace qui est réservé à l'au-delà et à ce qu'on ne comprend pas toujours, mais qui était toujours très bien éclairé, mis en valeur, et qui est un petit peu en dehors, mais qui est... Enfin, quand on rentre en général dans les églises, c'est ce qu'on voit, c'est notre premier regard.
J'avais une idée, je la défendais à travers tout. Avec parfois des mensonges. Il fallait bien se sortir de...
Ça passe.
Ah ben oui. Et voilà. L'église de Louvain-la-Neuve, c'est quand même, pour moi, chose très importante.
L'espace et la lumière étaient propulsés d'une certaine manière par la structure même du bâtiment, la façon dont les matériaux étaient mis en œuvre. Donc il n'y a jamais de mensonge, si vous voulez, dans la façon dont ils mettaient en œuvre, que ce soit le bloc de béton, la brique, le béton lui-même, les structures métalliques de la charpente, etc., ou en bois. Et tout cela participait d'un même élan. Du sol jusqu'au plafond, si vous voulez, il y avait cette même symbiose et synthèse entre tous les éléments de l'architecture. Pour permettre que les matériaux parlent d'eux-mêmes, il a mis au point certains systèmes constructifs, comme notamment le mur autostable, ce qu'il appelait le mur autostable, c'est-à-dire un mur en maçonnerie, par exemple, qui, grâce à ses redans, ses plis, etc., permet de se stabiliser seul. Donc sans artifice autre que simplement la tectonique mise en œuvre. Et ça, je trouve très intéressant. Hein. On le voit notamment dans la façade ici de la pierre qui vire. Et l'église de Louvain-la-Neuve, Saint-François de Louvain-la-Neuve, très symptomatique avec ses prises de lumière en épi qui grandissent au fur et à mesure que le pignon s'élève vers le ciel.
C'était quelque chose qui le préoccupait assez fort parce que justement dans les églises où il y a des hauts murs sans plancher, sans mur de refend, cette question de la stabilité au vent notamment était préoccupante. Donc tous ces plis qu'on retrouve effectivement dans plusieurs bâtiments, ici on voit l'église Sainte-Claire à Cergy-Vauréal, donc c'est près de Paris. Quand on a des murs qui s'élèvent tout seuls, ils voulaient garantir la stabilité chaque fois. Ça, c'est l'église Sainte-Anne à Kuckelberg, c'est plus bas et plus calme, mais ça relève toujours du même principe, avec aussi parfois une combinaison pour une arrivée de lumière ou pour disposer une statue, puisqu'ici il y a la statue de Sainte-Anne qui y figure. Grâce à cette symétrie, il y a quelque chose qui se passe à la rencontre des deux plis, gauche et droite. Des dizaines de dessins sur la même façade. Et c'est avec des matériaux différents, parfois c'est du bic, parfois c'est du marqueur, parfois c'est du crayon gras, parfois ce sont des mélanges aussi. Et alors sur toutes sortes de supports, donc les supports quadrillés, des supports qui sont parfois des nappes en papier, des enveloppes, il y a de tout. Enfin vous voyez, il y a un petit peu, c'est un texte, et puis se greffe dessus un plan, un plan d'implantation, des recherches de façade. Vous voyez les couleurs aussi, ne l'effrayez pas, il y avait toutes les couleurs. Alors ça peut aller jusqu'au détail, quoi. C'est parfois juste un plan d'implantation, mais ça peut aller jusque des détails de charpente qui doivent s'assembler, par exemple, ici.
Non, c'était pas simplement l'endroit où on allait poser le bâtiment sur le sol, mais le terrain devenait tout d'un coup magnifié. Les lignes de force, les lignes de paysage, etc., étaient quelque part magnifiées par l'architecture qu'il allait mettre dessus. Les pans de toiture prolongeaient un vallon ou une crête... Le pignon monopente s'arrêtait d'un côté, évidemment, de façon abrupte, mais ça répondait, par exemple, à un paysage plus vaste, des choses comme ça. Donc, le bâtiment lançait vraiment, le propulsait vers quelque chose qu'il n'avait pas avant, sans l'architecture.
Par exemple, l'église, j'ai fait des murs autostables, de l'amplitude au sol, du plan. Et on est arrivé comme ça au-dessus.
Tout cet enseignement, évidemment, il le prodiguait à ses étudiants. Et c'est la première chose qu'il gardait, d'ailleurs, quand on proposait un projet d'architecture quand on était étudiant, c'était comment est-ce qu'on approche le bâtiment, comment est-ce qu'il s'intègre au sol, qu'est-ce qui fait que le bâtiment qu'on implante participe, on s'en appelle au genius loci, mais au génie du lieu, c'est peut-être un grand mot, mais surtout dans un lotissement à Waterloo, parfois le genius loci il est très peu présent, mais malgré tout, il parvenait à tout d'un coup, quand on passe devant ces maisons, même si On est passé long en dizaines de maisons qui n'ont aucun intérêt et qu'on va en voir encore 20 après qui n'ont aucun intérêt. Tout d'un coup, il se passe quelque chose parce que, un, la forme est d'une simplicité, d'une honnêteté remarquable, et en plus, tout d'un coup, le sol devient l'architecture.
Rue Maurice Wilmotte et rue d'Irlande sur le coin.
Et alors, donc, c'est un bâtiment qui est un bâtiment académique, qui contient des auditoires et un grand atelier sous la toiture.
Jean-Paul Forlay.
On parlait tout à l'heure de l'intégration de l'architecture de Jean Cos dans le paysage, mais ici nous sommes au cœur même de Saint-Gilles. Et donc on voit comment l'architecte, malgré tout, est parvenu à intégrer son bâtiment dans un tissu urbain caractéristique, comme l'architecture de la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle ici à Saint-Gilles. On parlait de pilastres verticaux, la corniche débordante, les bandeaux horizontaux en béton architectonique qui soulignent les bandeaux qu'on trouve dans les maisons environnantes, etc. Tout ça fait partie donc d'une intégration très subtile.
Les matériaux bruts et naturels, on voit toute la trace du travail qui a été nécessaire pour construire ces escaliers, en fait.
On a de la maçonnerie en briques qui est très peu présente, puisqu'elle est surtout présente à l'extérieur du volume. À l'intérieur, venant de porche d'entrée, la brique remonte jusqu'au premier étage de l'auditoire. Et puis c'est toute la structure en béton qui contient les paliers intermédiaires et les paliers qui donnent accès aux auditoires. Le béton qui prend le relais. Avec une caractéristique aussi, on parlait de lumière. Regardez comme la lumière s'accroche au mitoyen par ce crépi qui fait vibrer le soleil. Aujourd'hui, il y a un très beau soleil. Et donc là aussi, le mur plissé qui stabilise la maison mitoyenne, en fait, hein, parce que c'est un grand vide, comme on va le voir maintenant. Toute la hauteur du mitoyen qui est présent dans le hall d'entrée avec les prises de lumière qui captent le ciel, qui permettent au soleil de pénétrer très profondément dans le bâtiment. Et donc pour stabiliser ce mur, de nouveau le plissé qui fait que plutôt que des simples contreforts, des simples murs de refend, non, c'est tout un plissé qui permet de stabiliser et d'accrocher certains paliers de l'escalier qui monte jusqu'à l'atelier supérieur. Béton brut de décoffrage, les planchettes sont apparentes, les bavures des joints sont apparentes aussi. Voilà.
Les colonnes rondes, c'est aussi très présent, évidemment, comme les petites planches sont plus étroites, ça donne aussi beaucoup de relief à cet endroit-là. Constructivement, il y avait quelque chose de particulier ici, c'était des maisons qui existaient et qui ont dû être démolies. Cette maison-là ne faisant pas partie du patrimoine des Instituts Saint-Luc, on a été très prudent pour que ce mur reste en place. Et donc, on n'a pas démoli tout. En fait, on a démoli qu'une travée. Et on a fait ce mur plissé pour le stabiliser avant de démolir l'angle. Voilà. Alors, le sol était très mauvais aussi. C'est un sol de sable. Et on n'a pas pu faire non plus les sondages du sol avant d'avoir démoli une partie. Donc ça a été confirmé avec les sondages. Et le choix, par exemple, de 4 colonnes portantes, c'est parce qu'il y a des faux puits et des endroits ponctuels d'appui des fondations qui sont aussi créés. Donc il y avait toujours le côté aussi de l'association des lieux, mais de la construction qui était mêlée.
Hommage à Jean Cos. 1931-2016. Avec Brigitte de Grove, Jean-Paul Verlaine et Marie-Jeanne Cos. La voix de Jean Cos a été enregistrée au printemps 2016.
Une grande entrée qui s'ouvre sur l'angle avec un encorbellement de la maçonnerie donc qui tient par simplement le fait qu'elle s'épaule mutuellement.
Hommage à Jean Cos par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
C'était très très simple comme matériel, tout était dans les tiroirs, donc notre matériel qui était composé de crayons, de taille crayon, de porte-mine, de gomme, des choses très simples, se trouvait ici.
L'exposition Jean Cos, le savoir de la main, sera visible à la faculté d'architecture, rue Waffelaars 4751 à 1060 Bruxelles, du 17 octobre au 10 novembre, du mercredi au samedi, de 13 à 18 heures.
Le bâtiment fait partie du patrimoine des Instituts Saint-Luc à Bruxelles, avec la maison mère qui est de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de l'angle. Et donc ceci, par manque d'auditoire dans les anciens locaux, le conseil d'administration avait demandé à l'époque à Jean Cosse, à Brigitte, à Willy Cernels notamment, et à Henri Doyen, de concevoir un bâtiment qui pouvait accueillir 4 auditoires. Il y en a 2 au rez-de-chaussée, 2 petits rez-de-chaussée, un plus grand au premier étage et un très grand, enfin très grand, au deuxième étage, avec le grand atelier de dessin sous la toiture, avec un lanterneau qui fait tout le tour du fait, hein, qui prend tout le fait.
Et c'était en quelle année ?
1989.
Oui. Ce qui est intéressant ici sont les arrivées et sorties de cours où on a l'animation de tous les étudiants qui circulent de haut en bas et bon, qui trouvent un espace pour un peu respirer, discuter. Il y a quand même des expositions aussi qui sont ici. C'est un lieu de rencontre, on va dire.
C'est pour ça qu'on l'appelle le forum.
Oui. Les moyens qu'on utilisait au bureau sont très simples puisque c'était quand même du papier, du calque, crayon, marqueur, les lattes et la planche à dessin, mais c'est tout. On n'avait pas d'ordinateur. Donc ça, c'est fait à la main, en fait. Et c'est le bâtiment Saint-Luc. Je ne sais pas si vous allez aller le voir. C'est pas très loin, en fait. Ce sont les plans d'exécution de ce... Donc les façades, tous les plans. Les égouts, le sous-sol, en fait. Voilà.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.